France Culture.
Après avoir activement participé à mai 68, protesté dans des amphis enfumés, couru derrière des CRS dépassés, Béa avait rejoint le mouvement de libération des femmes. Je ne sais plus quand, avec ses copines, elle avait tenté de bloquer une conférence anti-avortement organisée à l'Institut catholique de Paris. Les jeudis qui avaient suivi, elle les avait passés dans un préfabriqué de l'école des Beaux-Arts à militer et discuter. À 27 ans, Béa signait le manifeste des 343 du Nouvel Observateur et déclarait avoir avorté. Deux ans plus tard, fascinée par l'engagement de Delphine Seyrig, portée par la méthode Carman et la révolution qu'elle apportait, elle rejoignait le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, bien décidée à aider. C'est comme ça que ma mère avait connu la tienne. En 1973, Béa avait organisé le voyage de Suzanne pour Amsterdam. La mère de Ben, qui s'interdisait toute contraception, était tombée enceinte d'un comédien qui avait déserté dès le lendemain. Elle avait mis du temps à s'en rendre compte. Quelques semaines plus tard, elle poussait la porte de l'un des comités du MLAC et tombait sur Béa, qui la prenait en charge. Après ce voyage, les deux copines, Suzanne la catholique et Béa la gauchiste, avaient participé ensemble au Tour de France de l'association. Nos mamans avaient passé l'été 1974 dans un car bardé de banderoles à hurler qu'elles ne voulaient pas d'enfants. Tu te souviens de ces dîners où Suzanne et Béa nous racontaient leurs années 70, Ben ? Voilà, Ben, c'est l'un des deux personnages principaux avec la narratrice K du roman que signe Camille Kouchner, Immortel. Camille Kouchner qui nous rejoindra en deuxième partie d'une émission consacrée précisément à l'héritage du féminisme de ces années 1970.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau.
Une émission qui commence donc avec vous. Bonjour Camille Masclé.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes chargée de recherche au CNRS, au CESP, et vous publiez aux presses universitaires de France « Le féminisme en héritage », donc « Incidence intime et transmission familiale d'une lutte politique ». C'est une enquête, une vaste enquête, qui a recours à différentes techniques d'ailleurs, qui vise à mieux comprendre ce qu'on appelle, pour aller vite, la deuxième vague du féminisme, d'une part, et d'autre part, les effets que cette vague a pu produire. Alors évidemment, c'est une enquête qui sort dans un contexte particulier, celui de ces années récentes où une troisième vague, en quelque sorte, du féminisme a vu le jour, mais vous l'avez menée avant cette enquête. Cela dit, ce temps d'avance que vous avez vous a probablement permis de voir et de comprendre un petit peu différemment ce qui nous arrive depuis quelques années.
Oui, tout à fait. Donc c'est une enquête que je mène dans les années 2010, donc avant l'irruption de cette nouvelle vague de mobilisation féministe à laquelle vous faites allusion, donc ce qu'on a appelé la vague MeToo, le moment MeToo, qui pour les historiennes est même plutôt la quatrième, voire la cinquième vague.
Ça pose la question de la vague d'ailleurs, on y reviendra.
Tout à fait. Et en fait, en écrivant ce livre, j'ai beaucoup essayé de réfléchir en fait à l'effet miroir entre ce qui s'est passé dans les années 70 au moment de la deuxième vague et ce qui se passe aujourd'hui, puisque moi ça m'a beaucoup frappé en fait après avoir travaillé donc sur cette autre période de mobilisation, de voir déferler la vague MeToo et d'avoir en un sens de pouvoir éprouver, enfin mieux réaliser ce qu'avaient été les années 70 que donc j'ai pas vécu. Non plus, avec cette prolifération de collectifs féministes, de mouvements féministes, ce retour sur le devant de la scène du terme même de féminisme qu'on n'entendait pas plus autant dans les médias, dans le monde de l'édition, dans des productions écrites. Et puis voilà, c'est vraiment cette ampleur de mobilisation aussi très, très euphorisante, enfin, très galvanisante. Et qui, je pense, ressemble très fortement en fait à ce qui s'est passé dans les années 70, avec bien sûr des différences, mais voilà, sur ce côté, genre un mouvement en plein essor. Et donc l'idée du livre, c'est de jouer un peu sur cet effet miroir, en disant aussi que finalement, le fait de se pencher sur les années 70, sur ce qui se passe, sur donc cette dite deuxième vague de mobilisation, ça permet en retour d'apprendre des choses sur aujourd'hui, sur des questions auxquelles on peut pas répondre encore aujourd'hui, mais qui sont déjà largement soulevées sur les effets de MeToo. Donc c'est quelque chose qu'on entend déjà beaucoup hein, sur est-ce que en fait comment, dans quelle mesure est-ce que MeToo a changé les choses, les individus, les normes sociales autour de la sexualité, du genre par exemple. Et ça, c'est les questions qu'on manque pour l'instant de profondeur historique pour y répondre. Par contre, on peut y répondre pour cette autre grande période de mobilisation qu'ont été donc la période des années 70 et dont la caractéristique a aussi été de politiser le privé et de mettre au centre hein, ce fameux slogan le personnel est politique, de montrer le caractère politique de ce qui se passe dans la sphère privée, des rapports de pouvoir qui se déploient dans la sphère privée, et puis de politiser des questions qui jusqu'alors étaient considérées comme triviales ou en tout cas pas intimes et pas dignes de politisation autour du corps, autour de la conjugalité, autour de la sexualité.
Alors ce qui est intéressant avec votre enquête, c'est que c'est une enquête de sociologie politique qui s'intéresse pas simplement à l'histoire des idées, aux grands noms, aux théories qui s'enchaînent, comme on a parfois aussi tendance à le faire quand on s'empare de l'histoire, parce que les textes restent. Vous avez essayé d'accéder à une réalité de l'engagement, du militantisme, de cette socialisation qui avait évidemment été effacée par le temps qui passe, tout simplement. Et il a fallu que vous mettiez en quête de retrouver des gens qui avaient vécu ces années-là. D'autant que vous avez choisi de le faire en n'allant pas forcément au plus évident, au plus simple, c'est-à-dire en allant chercher les figures marquantes, celles qui avaient continué de prendre la parole, qui avaient pu évoluer sur ces questions. Vous avez pris le parti d'aller ailleurs qu'à Paris, en région, du côté de Lyon, de Grenoble, et pour y retrouver des militantes lambda, j'allais dire en quelque sorte, Camille Masclé.
Oui, pour répondre à cette question des effets de cette mobilisation féministe et de, en fait, comment, à cette question générale que j'évoquais au début sur comment finalement les mouvements féministes participent au changement social, produisent des changements sociaux, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de saisir une échelle particulière, qui est une échelle, moins travaillée, qui est celle des trajectoires individuelles et donc des trajectoires des femmes qui se sont engagées dans ces mobilisations dans les années 70 et celles de leurs enfants. On y reviendra, j'imagine. Parce que ça me semblait intéressant. On connaît aujourd'hui les acquis, les grandes conquêtes, les droits et les transformations sociales que les mouvements féministes ont permis, mais on connaît moins ce qui est de l'ordre des révolutions intimes, individuelles que ça a pu générer. Donc c'est ça qui m'a intéressé, en fait, de retrouver les femmes qui étaient partie prenante, qui s'étaient engagées activement dans ces mobilisations, et de voir ce qu'elles étaient devenues et comment ça avait impacté la suite de leur vie ou pas d'ailleurs, hein, quels étaient leur devenir. Sauf que pour faire ça, ce qui me semblait important et intéressant, c'était de pas s'en tenir aux grandes figures des mouvements féministes de l'époque, même si pour le féminisme, c'est toujours toute proportion gardée, la notion de grande figure. Mais en tout cas, de décentrer le regard par rapport à celles qui ont écrit sur cette histoire, qui ont témoigné, qui peuvent être plus, qui ont des formes de visibilité plus importantes.
C'est une question qu'on connaît bien à propos de mai 68, par exemple, de façon plus générale. Éric Neveu a fait un livre que vous citez avec le même parti pris, c'est-à-dire d'aller retrouver des acteurs qui ne sont pas ceux qu'on a pu lire par la suite dans des mémoires ou dans des souvenirs, par exemple.
Exactement, c'est la même démarche, et d'ailleurs je reprends cette idée de travailler sur des féministes ordinaires comme Éric Neveu et d'autres chercheurs hein, sur les 68 arts ordinaires. Donc l'idée, c'était d'aller chercher des féministes de l'ombre, on va dire, hein, qui étaient restés plus invisibles, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai essayé de décentrer le regard depuis Paris et le MLF parisien pour m'intéresser à des mouvements, on dirait aujourd'hui en région, mais du coup des mouvements provinciaux,
où il se passait quand même beaucoup de choses aussi.
Il se passait beaucoup de choses. Et en regardant aussi la diversité des collectifs. Donc en regardant pas uniquement le MLF, mais dans ces deux villes que sont Lyon et Grenoble sur lesquelles j'ai travaillé, j'ai regardé l'ensemble des collectifs, les MLAC, les maisons des femmes, les centres des femmes, les groupes de lesbiennes, enfin voilà, tous ces nombreux collectifs qui ont existé.
Mais alors comment vous avez procédé, comment vous avez pu remettre la main en quelque sorte sur ces personnes?
Oui, alors ça, ça a vraiment été un défi très important de ma recherche. C'est une véritable enquête dans l'enquête, puisque pour répondre à ce questionnement autour des effets en plus biographiques, c'était important de retrouver, voilà, d'avoir une forme de ligne de départ, hein, de retrouver les militantes, des traces des militantes à partir des années 70, et pas seulement d'aller vers celles qui aujourd'hui sont encore engagées ou sont encore connues comme militantes féministes de l'époque. Et donc j'ai dû me lancer vraiment dans une véritable quête de traces. Je me suis mise à traquer comme ça. J'ai cherché en fait plein de sources dans lesquelles je pouvais retrouver des sources de l'époque qui attestaient que des femmes avaient participé et dans lesquelles je pouvais retrouver des noms de ces militantes. Et donc j'ai cherché pendant des mois et des mois des sources diverses, en passant des archives les plus institutionnelles comme voilà les archives de la préfecture, des renseignements généraux, des associations, à des archives personnelles de militantes que j'ai pu retrouver parfois, hein, des trésors dans des greniers, même si le plus souvent ça avait été malheureusement jeté. Et j'ai grappillé comme ça tous les noms que j'ai pu trouver, sachant que la pratique de l'époque en plus c'était bien souvent de signer par des prénoms, donc voilà, ça ajoutait encore un niveau de difficulté. Et au bout de ces mois de travail, j'avais réussi à constituer une base de noms, et ensuite c'est passé la deuxième étape qui était de retrouver les personnes, de chercher leurs coordonnées, de femmes qui bien souvent ont aussi pu changer de nom suite à des divorces, voilà, donc ça a été vraiment une très longue partie du travail.
Et vous en avez trouvé suffisamment pour vous permettre en quelque sorte de mener une démarche quantitative ?
Exactement. Donc au final, grâce aussi à des personnes qui m'ont aidé, qui ont ouvert leurs archives, d'anciennes militantes qui ont ouvert leur carnet d'adresses, qui m'ont aidé à retrouver aussi d'autres personnes, j'ai pu comme ça constituer une base de 700 noms, parmi lesquels j'ai retrouvé à peu près la moitié des adresses, des coordonnées. Puis c'est un questionnaire donc par voie postale que j'ai réalisé, et plus d'une centaine d'entre elles ont répondu. Donc voilà, ça donne quand même des éléments quantitatifs intéressants.
À cela se sont ajoutés des entretiens approfondis avec certaines d'entre elles. Et puis on le verra aussi avec la génération d'après, c'est un des enjeux du livre. Mais peut-être pour aller vite, on va pas avoir le temps en une demi-heure de restituer tous les résultats d'une enquête aussi vaste et considérable. Mais quelles sont ces femmes à cette époque-là? Qu'est-ce que vous pouvez dire de leurs caractéristiques sociales et la suite, c'est-à-dire la façon dont ce mouvement les a socialisés et donc transformés socialement, Camille Masclet.
Alors sur la première partie de votre question, peut-être sur leurs caractéristiques sociales, ce qui est un des résultats intéressants de l'enquête, c'est de finalement déconstruire un certain nombre de mythes ou en tout cas d'images d'Épinal qui ont pu être accolées aux féministes des années 70. Et grâce à l'enquête par questionnaire et par cette perspective aussi que j'évoquais, j'ai pu finalement dresser un portrait beaucoup plus nuancé de ce groupe qui s'est engagé donc dans ces luttes-là, dont on a beaucoup dit, écrit, voilà, qu'elles étaient par exemple des jeunes femmes essentiellement bourgeoises, sans charge matérielle, sans charge familiale non plus à l'époque, donc relativement libres, et donc sous-entendu pour qui c'était facile
avec du temps
de s'engager. Voilà. Et ce que montre l'enquête est en réalité beaucoup plus nuancée, même si bien sûr, comme pour tous les autres engagements et mouvements sociaux, elles réunissent un certain nombre de... Enfin voilà, quelque chose qu'on sait très bien dans la sociologie du militantisme aujourd'hui, hein, qu'il est nécessaire d'avoir un certain nombre de capitaux, notamment culturels, et que l'engagement est une activité sociale sélective. Donc ce qu'on retrouve aussi chez les féministes, mais ce que j'ai pu voir, c'est que par exemple sur leurs origines sociales, plus d'un tiers d'entre elles sont issues de milieux populaires, donc les deux autres tiers appartiennent aux classes moyennes et aux classes supérieures, et sont dans un processus d'ascension sociale. Donc quand je les rencontre, c'est sûr qu'elles appartiennent aujourd'hui majoritairement aux classes moyennes et supérieures à fort capitaux culturels, mais il y a cette ascension sociale quand même relativement importante. Et l'autre aspect qui était intéressant aussi par rapport à leurs caractéristiques sociales, c'est sur la maternité et sur les enfants, puisqu'on a aussi beaucoup imaginé et pensé les féministes des années 70 comme des femmes sans enfants, voire qui en plus par ailleurs auraient pu avoir un refus de la maternité dans certains cas. Et ce que je montre grâce à l'enquête de l'enquête par questionnaire et même de manière assez précise, parce qu'il y a des questions aussi de datation, enfin je retrace leur parcours dans la maternité, c'est qu'en fait au moment de l'engagement, plus d'un tiers d'entre elles sont déjà mères et donc sont pas tant de disponibilité que ça forcément.
Sont militantes et mères en même temps.
Sont militantes et mères en même temps, ce qui explique aussi que finalement il y a aussi eu beaucoup de discussions dans les groupes autour de ces questions-là et de la question de l'éducation des enfants.
On va venir sur cet aspect privé, sur cette façon de politiser le domestique, le privé évidemment qui est caractéristique de ce moment du féminisme et sur lequel vous avez essayé d'en savoir plus. Mais ce qui est intéressant aussi dans votre enquête, c'est que elle saisit de ce qu'on appelle cette deuxième vague, mais qui concerne un mouvement finalement relativement circonscrit dans le temps, mais néanmoins dans lequel il y a une véritable dynamique. Et ça, vous le montrez bien, c'est-à-dire qu'il y a le début de la mobilisation est peut-être marqué par la question de l'avortement qui est très, très forte, mais on ne peut pas résumer non plus complètement ce mouvement à ce moment-là, en fait.
Non, pas du tout. C'est vrai que c'est aussi ce qu'on a retenu, ce qui a été retenu de les mobilisations en faveur de l'avortement qui ont été très importantes dans les années 70 et qui ont débouché sur la dépénalisation et la légalisation de l'IVG. Mais la partie, on va dire, historique de l'enquête et puis aussi les travaux de nombreuses collègues montrent bien en fait la pluralité des luttes et des mobilisations qui ont eu lieu dans les années 70. Aussi sur d'autres sujets qui commencent à être politisés dès cette époque. Typiquement, la question des violences de genre et des violences sexuelles, c'est une cause centrale à partir du moment, dans la deuxième moitié des années 70, à partir du moment où justement la loi Veil est votée, où il y a une forme de démobilisation sur ce sujet, la question des violences vient prendre le relais. Mais aussi plein d'autres causes et motifs de lutte et de revendication. Et quelque part, ce qui est intéressant avec cette période, c'est qu'il y a aussi toute une culture féministe qui se développe dans les maisons des femmes, dans les centres des femmes, dans une presse féministe. Donc il y a un côté très, très foisonnant, très pluriel. Et dans le livre, je montre en fait comment les féministes que j'ai enquêtées, que j'ai retrouvées, comment elles traversent ce mouvement et comment est-ce qu'elles ont aussi des trajectoires différentes. Enfin, il y a plusieurs types de trajectoires. Elles ne s'engagent pas toutes dans les mêmes luttes. Elles ne traversent pas toute cette décennie de la même manière. Il y a des typologie de trajectoire.
Alors bon, la notion de vague est problématique. Je faisais récemment une émission ici avec Tim Ingold qui nous enjoint d'arrêter de parler de génération et plutôt d'avoir la métaphore de la tresse, parce qu'au fond, les vies, tout le monde a un peu tous les âges et les vies s'entrecroisent et c'est très compliqué de conceptualiser les choses comme ça. Et d'ailleurs, cette période, en gros, elle commence en mai 68. On pourrait dire presque qu'elle se termine avec l'arrivée de la gauche au pouvoir ou un tout petit peu après. Au fond, c'est un peu deux bornes politiques, mais on a l'impression que c'est davantage l'histoire politique extérieure qui vient en quelque sorte borner que les vies des unes ou des autres, en fait.
Alors c'est l'histoire féministe en tout cas qui vient border, qui est bien sûr liée à l'histoire politique extérieure, mais c'est quand même, pour moi ça s'arrête déjà un petit peu plus tard, c'est ce que montre quand...
Oui, 84, vie,
plutôt au milieu des années 80, et c'est quand même le reflux des mobilisations et le désengagement assez massif qu'on observe à cette époque qui permet de borner, au sens où justement il y aurait un reflux de la vague, même si c'est une métaphore sur laquelle on peut faire certaines critiques, mais qui a une utilité pour circonscrire, périodiser. En fait, c'est un outil de travail. Moi, ce qui m'a intéressé dans mon travail, c'est d'aller au-delà. C'est le point de départ, de regarder qui sont ces militantes qui s'engagent dans la deuxième vague. Mais finalement, en suivant leur trajectoire jusqu'aux années 2010 et celle de leurs enfants, ça me permet de traverser différentes périodes d'un demi-siècle, quelque part, d'histoire du féminisme, et de regarder en fait ce qui se passe à travers leur trajectoire, de voir en fait des grands moments comme ça de cette histoire. Donc cette démobilisation génération des années 80 qui est très forte dans leur trajectoire à elles, puisque les femmes que j'ai rencontrées se sont massivement désengagées et quasiment jusqu'à, enfin très peu d'entre elles se sont réengagées par la suite, sauf celles, voilà, sauf certaines et certaines qui ont réussi à faire du féminisme leur métier. Mais pour autant, on y reviendra peut-être, mais elles sont restées féministes d'une autre manière. Donc ce moment de désengagement des années 80, mais aussi voir réapparaître pour celles qui se réengagent dans les années 90 d'autres luttes qui vont être importantes, hein, les luttes autour de la parité, les luttes de solidarité internationale avec d'autres femmes, et puis à travers leurs enfants, justement des formes d'engagement dans les mouvements féministes dits de la troisième vague qui vont amener d'autres façons de penser, d'autres questionnements autour des théories queer, autour de l'intersectionnalité par la suite. Voilà, et donc ça retrace en fait un peu toute cette histoire du féminisme à travers ces militantes et leurs enfants.
Cette histoire, c'est celle de la socialisation féministe de ces femmes dans ces années, dans ce début des années 70, et c'est aussi ce qui se passe, du coup, les conséquences de cette socialisation dans la sphère domestique, dans le privé. Évidemment, vous l'avez dit, c'est ce qui caractérise ce moment-là, l'affirmation que le privé, l'intime est politique. Et donc, vous avez essayé de comprendre ce qu'il en était, ce qu'il en avait été, au fond, plus concrètement, notamment eu égard à deux questions dont vous faites de chacune un chapitre, l'une qui concerne le couple, pour aller vite, et l'autre les enfants.
Oui, le livre s'attaque vraiment à cette question de la socialisation féministe qui traverse l'enquête de part en part et que je suis de son élaboration au sein du mouvement à ses effets sur les militantes et sur leurs enfants, avec derrière aussi une question théorique sur la question des socialisations de genre, qui est en fait une question qui a été très peu pensée en termes de socialisation secondaire de genre et en termes de transformation, c'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé en sociologie
sur la socialisation primaire, sur ce qui se passe quand les gens sont très jeunes.
Voilà, et sur aussi comment est-ce qu'on intériorise, ce qui va dans le sens de l'intériorisation des normes de genre dominantes. Mais finalement, on a moins pensé en termes de socialisation la question de la transformation de ces normes et comment les expériences socialisatrices qu'on peut vivre au fil de notre vie peuvent finalement venir transformer, modifier, faire bouger cette socialisation de genre initiale et aller dans le sens aussi d'une prise de distance avec les normes de genre dominantes. Et moi, c'est pour ça que je m'intéresse sur un plan théorique à la socialisation féministe, parce que c'est un bon cas d'étude pour montrer en fait cette transformation des socialisations de genre. Et en particulier, je vois comment la socialisation féministe a des effets sur la vie privée. Donc tout d'abord sur ce qui concerne la sexualité et la conjugalité. Donc l'enquête a révélé à quel point en fait cette socialisation féministe forgée au sein du mouvement est venue soutenir chez les militantes des pratiques de contestation du modèle conjugal dominant, donc le modèle du couple hétérosexuel exclusif, et que une grande partie des militantes, au moins au moment du mouvement, vont essayer de sortir et de transformer, de contester ce modèle, soit en sortant, donc c'est-à-dire en développant des formes relationnelles alternatives, en refusant l'exclusivité par exemple, en entrant aussi dans des relations avec des femmes, dans des relations lesbiennes, ou d'autres qui vont contester aussi ce modèle conjugal, mais plutôt de l'intérieur, en essayant de le transformer, et par exemple en essayant de transformer leur conjoint. Il y a beaucoup de choses aussi dans l'enquête sur les hommes, hein, par ricochet, et sur la manière dont ils sont aussi touchés, affectés par le
déconstruit, on dit aujourd'hui, mais ce serait anachronique de le dire avec ce terme-là.
C'est cette idée-là qu'il y a derrière. Où il y a aussi beaucoup de ruptures, de tentatives de mettre en place une division du travail domestique moins inégalitaire, prendre la distance avec le mariage, enfin voilà, tout en restant dans le cadre conjugal classique, on pourrait dire. J'ai aussi vu en fait comment la socialisation féministe soutient des manières d'essayer d'inventer autre chose et de desserrer les normes de genre et de sexualité qui enserrent les trajectoires féminines.
Alors, l'autre dimension, elle est évidemment cruciale, puis elle permet d'amener à la manière dont on hérite du féminisme, C'est la question de la socialisation des enfants de ces femmes, la manière dont ces enfants sont éduqués, dont on leur transmet ou pas ces normes de genre dont vous parliez, par exemple. Mais c'est l'un des, c'est dès ces moments-là, une façon de mettre à l'épreuve très pratique des concepts, des théories, des réflexions politiques que vous avez essayé de reconstituer à travers cette enquête.
Oui, le parti pris de l'enquête, c'est de porter sur deux générations et de s'intéresser donc aux enfants des féministes. Et ça m'a amusé de voir en fait comment dans les travaux sur les mouvements féministes, on parlait toujours beaucoup de transmission entre générations, mais qu'en fait c'était toujours pensé entre générations militantes et qu'en fait la transmission familiale, les enfants des féministes eux-mêmes étaient peu pensés en fait comme récepteur d'un héritage féministe. Et donc je suis remontée aussi à qu'est-ce qui se passe sur ce sujet-là dans les années 70. Il y avait aussi beaucoup l'idée en fait que la maternité avait été discutée sous deux angles principalement, soit sous l'angle de la maternité esclave, donc toute la critique de la maternité comme aliénation des femmes, soit au contraire sur le fait d'encenser la maternité comme pouvoir des femmes. Et en faisant un travail sur archives, je me suis rendu compte que finalement c'était peut-être un peu moins important, mais il y avait aussi d'autres manières de discuter de la maternité, et notamment sous l'angle de l'éducation des enfants, en fait, de se poser la question dans les groupes femmes, les féministes se posaient la question aussi de comment essayer d'éduquer ces enfants sans reproduire les normes de genre dominantes, en développant leur autonomie, ce qui est un sujet qui a été important, et ce qui a donné lieu ensuite à différentes pratiques éducatives qu'elles ont mises en œuvre avec leurs propres enfants. Sachant que quand on réfléchit en termes de socialisation, et c'est ce que je fais, on s'en arrête pas aux pratiques éducatives, mais j'ai aussi regardé plus généralement en fait comment est-ce que le féminisme avait coloré la socialisation familiale des enfants, pas seulement par des pratiques conscientes mises en œuvre à destination des enfants, mais aussi comment le féminisme constitue une toile de fond des univers familiaux à travers les modèles parentaux personnels qu'ont pu incarner les femmes elles-mêmes, enfin voilà, différentes manières par lesquelles se constitue finalement cet héritage féministe.
Alors comment vous avez pu mettre en relation, articuler ce que vous avez observé sur la pratique de socialisation de ces femmes comme mères dans les années 70 et puis ce que vous ont dit les enfants que vous êtes allés interroger sur la façon dont ils ont eu le sentiment d'avoir hérité du féminisme de leur mère, de leurs parents peut-être plus généralement?
Là, c'est tout l'intérêt pour moi d'avoir fait des entretiens croisés avec non seulement les mères féministes et avec leurs enfants. Quand on travaille sur ces questions plusieurs décennies après et qu'on essaie de remonter aussi à l'enfance, aux pratiques de socialisation qui sont développées pendant l'enfance, et il y a vraiment beaucoup de difficultés puisque il faut essayer de retrouver des choses assez fines passées. Et le fait d'enquêter c'est dans 15 familles où j'ai pu rencontrer à la fois donc des femmes qui étaient devenues mères et leurs enfants et parfois plusieurs enfants. Et donc là, il y avait aussi beaucoup de choses intéressantes sur les recoupements que ça permet de faire entre ce que disent les uns les unes et les autres. Et cette technique de la comparaison, ça a été vraiment un outil très très important pour essayer de retrouver et de restituer la socialisation. Et je me suis aussi beaucoup intéressée finalement à comment est-ce que dans les familles on peut raconter un même événement de la même manière ou au contraire différemment, les hiatus, les moments où il y a des choses qui se recoupent pas forcément. Et grâce à ça, en fait, ça m'a permis en fait de retracer non seulement les modalités de transmission des héritages féministes, mais aussi beaucoup un élément qui m'a intéressé, les modalités d'appropriation chez les enfants. Comment est-ce qu'en fait on s'approprie cet héritage féministe dans un monde et dans un contexte politique complètement différent?
Alors, on disait en commençant l'émission, Camille Masclé, vous avez travaillé dans les années 2010, avant cette nouvelle vague du féminisme, et j'imagine que vous avez continué à échanger avec les personnes que vous aviez rencontrées pour l'enquête, ou d'autres qui s'intéressent à ces questions. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la manière dont ont reçu ces années récentes ces militantes plus âgées que vous avez eu l'occasion de rencontrer et peut-être à propos du sentiment que finalement ce qui change c'est davantage l'attention médiatique, l'attention sociale sur une question que la manière dont ces questions travaillent en profondeur la société qui elle est peut-être plus continu que ce que permettrait de saisir la métaphore des vagues, précisément.
Alors, en réalité, il aurait fallu faire une nouvelle enquête que je n'ai pas faite sur pour savoir comment les féministes des années 70 et leurs enfants, et puis même, du coup, les petits-enfants, en fait, qui ont peut-être participer aux mobilisations MeToo, comment ça venait réactiver, déplacer ces héritages féministes, le questionner. Donc ça sera un beau sujet de recherche. Moi, ce qui me semble intéressant dans les continuités entre la période des années 70 et le moment MeToo, quand on le prend sous l'angle en fait de la manière dont la politisation de l'intime, la manière dont les questions touchant au privé et à l'intime sont politisées, on observe à la fois des recompositions et en même temps des formes de permanence, puisque finalement je trouve que les questions de sexualité, de conjugalité, de ce qui touche à la maternité, à la famille, sont de nouveau hein, au cœur des luttes féministes actuelles, avec des angles et des manières de les penser qui, elles, sont renouvelées avec des nouveaux sujets. Aujourd'hui, par exemple, on va parler beaucoup du consentement au sujet de la sexualité. On va parler du polyamour sur la conjugalité, beaucoup des violences et de manière aussi renouvelée par rapport aux années 70. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi des angles renouvelés pour interroger ces questions-là.
Le féminisme en héritage, c'est le titre de votre livre. Continue de parler de la manière dont on hérite du féminisme avec Camille Kouchner qui nous rejoint dans la deuxième partie de l'émission. C'est après un extrait du deuxième album de Alien Boy, Changes.
Yeah.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau.
Hériter le féminisme, c'est le thème de la suite dans les idées. Cette semaine, avec vous Camille Kouchner, vous faites paraître aux éditions du Seuil votre deuxième livre de littérature. Après La Familia Grande, vous avez fait le choix cette fois de la fiction pour Immortel au pluriel. Un roman qui est né, avez-vous expliqué, des réactions au premier livre littéraire que vous aviez publié. Vous avez voulu, au fond, nourrir cette fiction de beaucoup d'histoires qui vous ont été partagées par des personnes qui, comme vous, ont hérité de ce féminisme des années 70 dont nous parlions avec Camille Masclet. Et donc, au fond, c'est pas surprenant de retrouver comme contexte historique dans un milieu social particulier, différent de celui enquêté par Camille Masclet, mais au fond, peu importe, cette période, pour poser une question à travers un dispositif fondamental du roman, ces deux personnages, une fille et un garçon, qui se trouvent de plus en plus assignés comme fille et comme garçon, au fond, reposer cette question de la manière dont ce féminisme des années 70 a pu reproduire paradoxalement peut-être, ces normes de genre qu'il prétendait remettre en question.
Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis très contente d'être là et très contente d'être avec Camille Masclet. J'ai trouvé vraiment que le livre était très intéressant, ce féminisme en héritage. Moi, j'avais envie de construire un roman et donc d'être dans la fiction. Et en même temps, je me suis nourrie de ce que je connaissais et en effet de tous les témoignages que j'ai reçus depuis la Familia Grande sur les violences et sur les violences qui étaient faites aux femmes et au corps des femmes, parce que je me suis rendu compte en effet que c'était beaucoup les femmes qui me parlaient. Et donc je me suis interrogée sur cette question du genre, sur cette question de la construction de nos identités sexuelles. Parce que, comme le rapporte très bien Camille Masclet dans son livre, en effet, je me suis jamais posé la question de savoir si j'étais une fille ou un garçon, en fait. La question de la femme que j'étais revient aujourd'hui. Et savoir si les violences s'abattaient plus sur les filles ou sur les garçons, c'est quelque chose, une question que je m'étais pas posée. Donc à partir de tous ces témoignages et de l'émergence de cette question du genre dans mes réflexions, j'ai décidé d'écrire ce roman pour interroger un peu un garçon imaginaire qui aurait grandi avec une fille imaginaire, l'interroger un peu sur son positionnement, comprendre ce qui faisait de ses assignations et comment il traversait notamment ces années 80 dont vous parlez, où il y a un certain désengagement par rapport à ce militantisme.
Une forme de reflux.
Exactement. Et donc, qui ont laissé les enfants nés dans les années 70 un peu démunis, ou en tout cas, ils ont joué sur leur acquis, ils ont pensé que l'égalité était gagnée, ils ont pensé qu'il n'y avait plus rien à faire plus tard, et grâce aujourd'hui à la vague MeToo, alors vague ou outresse, moi j'ai pris conscience que tout ça n'était absolument pas terminé.
Au fond, ce que votre roman permet d'éprouver, un peu à la manière de l'enquête de Camille Masclet, c'est le hiatus, le fossé qui peut y avoir entre l'affirmation de certains principes, l'engagement dans des causes militantes, et puis la manière dont on parvient ou pas à les traduire dans le domestique, dans l'intimité, dans le couple avec ses enfants, sachant que il y avait là un des enjeux théoriques, politiques, fondamentaux du mouvement lui-même, en fait.
Oui, mais en même temps, en lisant Camille Masclet, j'arrive à mettre des mots là-dessus, c'est-à-dire que il y a notamment dans ce projet de contre-éducation féministe la question de l'autonomie des enfants, et ça m'a amusée de le lire après parce que je me rends compte que c'est un peu là-dessus que j'ai construit le roman, cette autonomisation très 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 précoce des enfants, et puis aussi cette mise en question des normes de genre, et donc cette je sais pas si on peut appeler ça une confusion, mais cette assimilation du genre garçon-fille. Moi, j'avais envie de montrer avec cette allégorie de la cellule qui se divise, qui mute, etc., que au départ, peut-être que le présupposé de ces enfants, c'était qu'ils étaient tous les deux à la fois filles et garçons et que c'était indifférencié. Et puis, plus ils avancent dans leur vie et plus ils rencontrent les normes sociétales, et les normes sociétales qui sont celles des années 90, puis 2000, puis 2010, et ils ils sont obligés, enfin, ils sont construits par l'extérieur, hommes et femmes. Et la question, c'est est-ce qu'ils peuvent continuer leur dialogue, qui était un dialogue, enfin, une cellule unique, qui a vraiment un lien entre eux, qui faisait qu'ils se comprenaient parfaitement. Et plus ils avancent, plus ils font avec les normes sociétales, et moins ils se comprennent.
Il y a une manière de transmettre un certain type de féminisme des années 70 qu'on trouve dans le personnage, les personnages, les femmes mères dans votre roman Camille Kouchner, qui consiste à expliquer à leur fille, à sa fille, au fond, qu'il faut se comporter comme un homme. Et vous dites, au fond, ce féminisme-là était contre la soumission, mais il n'avait pas compris le concept de domination.
Voilà, c'est moi j'avais envie d'interroger ça dans ce roman, cette grammaire du pouvoir, la question du féminisme et la question de la grammaire du pouvoir. Parce que aujourd'hui, il me semble que le projet féministe lui-même, c'est vraiment d'interroger cette grammaire du pouvoir et de remettre en question la question des oppressions, de la domination, voilà. Après, dans le parcours de ce personnage, Béa, qui est la mère de la petite fille, elle, au moment des années 80-90, le moment où elle renonce peut-être un peu, ou en tout cas, elle est moins militante, elle finit par s'accommoder de cette situation de pouvoir et se dire, pour me faire une place en tant que femme dans cette société patriarcale, il faut que je ressemble à un homme. Et je pense qu'on trouve encore beaucoup de modèles comme ça de comportement, voilà, mais parce que c'est la place qui est laissée par les hommes, hein, donc il faut la prendre. Et donc elle a ce discours-là auprès de sa fille. Elle lui dit, si tu veux être indifférencié, il faut que tu sois un bonhomme.
Camille Masclé, comment vous avez reçu ces personnages inventés par Camille Kouchner?
Oui, alors j'ai lu avec beaucoup d'intérêt et effectivement il y a des résonances avec mon enquête et d'autres endroits où ça s'éloigne davantage, mais c'est vrai que sur les résonances j'ai trouvé que les deux personnages de mère qui se rencontrent dans le mouvement féministe, dans le MLAC en particulier, donc c'est aussi ce côté, ces rencontres militantes un peu improbables, quoi, de femmes qui sont éloignées socialement autour de cette pratique des avortements, la centralité accordée à l'amitié, et ça c'est des choses qui étaient très présente aussi dans mon enquête, hein, le rôle des copines féministes et qui aboutit même à des formes de vie, de configuration familiale un peu alternative et élargie, le fait d'élever les enfants ensemble, ça c'est aussi des choses que j'ai pu observer, qu'on me raconte beaucoup sur comment est-ce que les féministes ont pu essayer d'élever leurs enfants ensemble, avoir des pratiques aussi comme ça. Et puis bien sûr sur la manière dont le politique et le féminisme s'immiscent dans la vie familiale, ça je trouve que c'est particulièrement bien dépeint, qu'on a beaucoup d'exemples sur tout le côté voilà, ce que vous avez cité au début de l'émission, hein, les discours qui peuvent être tenus, les récits qui sont racontés, emmener les enfants en manifestation, la manière de se comporter même dans la sphère familiale, comment ça participe à transmettre cet héritage féministe. Après, peut-être là où ça s'éloigne il y a des formes de résonance, mais où c'est, je dirais pas exactement la même chose. C'est-à-dire que moi, les femmes que j'ai rencontrées, d'une part, elles sont quand même restées très attachées à la cause. Je dirais pas, voilà, elles sont beaucoup désengagées, comme je l'ai évoqué. Mais par contre, elles sont, en un sens, restées féministes et elles ont pas considéré que tout était gagné. Au contraire, hein, elles racontent beaucoup leur combat dans le quotidien, dans leur sphère professionnelle, dans leur sphère familiale pour continuer à lutter, la manière dont elles ont encore des réflexes féministes et beaucoup aussi autour de la solidarité entre femmes, qui est un legs important en fait de cette époque et que j'ai moins retrouvé effectivement dans le personnage de Béa, alors qu'elles mettent beaucoup en valeur en fait cette question de pas rentrer en concurrence avec les autres femmes et de construire des formes de solidarité avec les femmes.
Et justement, là, c'est moi, ouais, ce que je trouve intéressant, c'est dans ce que j'ai lu sur la transmission, ce que vous avez écrit sur la transmission, comment on transmet ou pas le féminisme dans la sphère privée aux filles et aux garçons, il n'y a pas forcément d'acte très manifeste, mais c'est un discours permanent en réalité. Et moi, ce que j'ai essayé de faire dans Immortel, c'est de montrer que il y avait aujourd'hui une émergence de la sororité, que peut-être entre Béa et K, sa fille, il n'y a pas eu, c'est-à-dire il n'y a pas eu de transmission, mais en revanche, K le personnage, elle, accepte cette sororité parce qu'il y a un personnage de femme à l'hôpital, là où se trouve Kat, qu'elle finit par reconnaître en tant que, alors, sœur, je sais pas, mais solidaire, voilà. Et que donc finalement, c'est de génération en génération que finalement ce lien se construit.
Une autre manière de penser les choses, peut-être moins par vague et plus par continuité profonde et longue, c'est précisément la question du genre, Camille Kouchner. Parce qu'au fond, on a le sentiment que la période que vous décrivez, elle est un peu intermédiaire entre un monde dans lequel il y avait l'école des filles et l'école des garçons, et puis un monde queer aujourd'hui. C'est-à-dire que le monde que vous décrivez, c'est celui des premières années de la mixité scolaire, d'une finalement de filles et de garçons qui grandissent ensemble, qui sont très 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 proches, jusqu'à ces années du milieu du collège où, au fond, ils sont réassignés chacun très très violemment à leur genre. Voilà, et c'est comme si, au fond, ça documentait ces années 70, années 80, dans lesquelles on n'était plus tout à fait dans un monde complètement divisé en deux, mais pas encore non plus dans un monde de fluidité vers lequel peut-être on se dirige aujourd'hui.
Exactement. Et donc, ces deux personnages, Ben et Kat, ces deux enfants qui grandissent, d'ailleurs, qui sont dès l'école, en fait, cette socialisation les divise, parce que dans la cour de récré, etc., bon, ces personnages-là, ils reçoivent un discours féministe, et puis à l'extérieur, voilà, ils doivent éprouver l'efficacité de ce discours, et ils sont confrontés au fait que c'est pas comme ça que la société fonctionne. Et donc, toute la question du roman, c'est qu'est-ce qu'ils en font ? Qu'est-ce que fait Kat cette espèce de hiatus entre le discours et les actes, entre le pragmatisme et la théorie, et qu'est-ce que fait Ben et est-ce que c'est voilà, moi j'ai vraiment, je lutte contre l'essentialisation, donc c'est pas une histoire de filles garçons. Ce que j'essaye de construire, c'est un dialogue entre eux et de voir s'ils arrivent à se parler, voilà, dans ce qu'ils ont reçu de leurs années collège, leurs années lycée, et puis des discours des pères aussi, parce que moi, ce que je trouve important aussi, c'est de questionner la capacité de penser le féminisme de leur père. Voilà. Est-ce que les pères se sont satisfaits d'accompagner le mouvement de leur femme, enfin, je ne vais pas le dire comme ça, mais enfin, des femmes avec qui partageaient leur vie, ou est-ce qu'ils ont été capables de penser de manière active le féminisme? Mes deux personnages de pères, là, pas tellement.
Camille Masclé.
Oui, ce que je trouve intéressant dans le livre de Camille Kouchner et dans vos propos, c'est que je retrouve aussi beaucoup dans mon enquête, c'est cette confrontation en fait ultérieure, enfin le fait d'avoir eu une socialisation familiale marquée par le féminisme, ce qui est le cas du coup des enfants que j'enquête moi, et qui est souvent en fait en termes de normes de genre, donc pas pour moi pas du tout dans le sens d'une reproduction des normes de genre, mais au contraire, comment est-ce que leur mère et leur socialisation familiale les a poussés en fait à essayer de se distancer de ces normes de genre, d'aller vers une forme d'indifférenciation, ce qu'on retrouve dans vos personnages, et qui, moi, chez par exemple, les filles de féministes que je rencontre, produit des discours sur le fait de s'être jamais vraiment considérée comme une femme, des formes de distance avec des dispositions plus féminines, ou pareil, symétriquement pour les filles de féministes, des dispositions plus masculines, donc voilà, des formes d'écart aux normes de genre, initialement dans la socialisation primaire familiale, et qui devient plus difficile à tenir, hein, qui se confronte à d'autres mondes sociaux, d'autres instances de socialisation dans lesquelles, en fait, finalement, on n'est pas complètement adapté. Il y a comme ça dans les entretiens des récits, hein, notamment de filles de féministes qui racontent le jour où elles se retrouvent en proie à des discriminations et qu'elles n'avaient jamais pensé qu'elles pourraient, elles, être sujettes en tant que femmes à des discriminations, puisque justement, elles pensaient avoir échappé à ça.
Exactement, ouais, exactement. Et alors là, pour le coup, c'est quelque chose que moi j'ai voulu mettre en roman, mais que j'ai expérimenté, se sentir en décalage en permanence après cette socialisation féministe, être en décalage avec les normes qu'on rencontre ensuite. Et c'est pour, vous parliez tout à l'heure de cette évolution vers un monde plus queer, je pense que ça réduira le décalage, en effet.
Merci pour cette conclusion, Camille Kouchner. Merci, Camille Masclé. Immortel, c'est le titre du roman de Camille Kouchner. Le féminisme en héritage, c'est le titre du livre de Camille Masclé. On trouve les références sur la page de l'émission où vous pouvez la réécouter et vous abonner au podcast.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Rubrique actualité aujourd'hui à propos de deux journées d'études qui se sont tenues au campus Condorcet à Aubervilliers, il y a quelques jours, un peu plus qu'une semaine. Des journées d'études importantes, intéressantes, qui ont été un moment rare, si j'en crois les échos que j'en ai vu passer sur les réseaux sociaux et sur les pages de chercheuses ou de chercheurs qui y ont participé. La question était une question assez peu traitée jusque-là, celle du racisme dans l'enseignement supérieur et la recherche, à partir de trajectoires et d'expériences. Et c'est Anan Karimi, qui est sociologue, maîtresse de conférences à l'Université de Strasbourg, qui est avec nous en ligne. C'est vous qui avez eu la charge de conclure ces deux journées d'études. Donc vous allez pouvoir revenir avec nous sur ces moments qui visaient à comprendre, par exemple, on peut commencer par cette question-là, pourquoi tant de personnes racialisées ont dû aller trouver des postes dans l'enseignement supérieur et la recherche à l'étranger.
Oui, en fait, c'est des journées d'études sur le racisme dans l'ESR, celles qui se sont déroulées donc le 15 et le 16 mai sur le campus Condorcet, faisaient suite en fait à une première édition qui avait eu lieu le 23 mai 2024 à Lille avec un petit comité d'organisation composé de deux doctorants en sciences politiques, Anisère et Margot Viaillon, et d'une chargée de recherche CNRS, Margot Dazet. Et c'était en fait une première journée qui visait en fait à cartographier et à diffuser les savoirs sur les formes que prend le racisme dans l'enseignement supérieur et la recherche, mais aussi de réfléchir aux manières dont les rapports sociaux de race, qui sont vraiment un sous-champ institutionnel, enfin c'est une question qui est sous-investie dans l'enseignement supérieur et la recherche, et en fait comment ça influe et ça organise les pratiques de travail des chercheurs et des chercheuses, les interactions au quotidien, mais également les savoirs qui sont produits dans le monde académique. Et vous avez évoqué les chercheuses, alors beaucoup de chercheuses dans les tables rondes, si vous avez regardé un peu le programme, alors pour des questions aussi d'invitations qui ont été refusées, parce que parler du racisme dans l'ESR peut conduire à des formes d'autocensure, à des craintes de prendre la parole sur ces questions-là et d'entraver, en fait, par exemple, un recrutement ou une titularisation. Et donc, on a eu énormément de refus. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette table ronde sur quitter la France, dans laquelle on a reçu Audrey Célestine, Mamfatou Niang et Kautar Najib.
Alors, on peut préciser Audrey Célestine qui maintenant enseigne à NYU, à New York, Mamfatou Niang qui est professeur à l'université de Carnegie Mellon aux États-Unis également, et Kautar Najib qui elle est à l'université de Liverpool.
C'est ça. Et donc en fait, dans le cas d'Audrey Célestine, elle était titulaire à l'université de Lille et a quitté. Mamfatou Niang a fait sa formation en master lors d'un échange et resté aux États-Unis. Et Kautar Najib n'a pas trouvé de poste et donc est parti à Liverpool. Et donc ça montre bien comment en fait, de manière transversale, la question est comment on navigue dans l'ESR et comment aussi la question raciale, quand elle est abordée dans les travaux, eh bien entrave en fait des formes de stabilité et d'installation en France quand on investigue ces questions-là.
En fait, on sait que c'est une question très ancienne. Pour ne citer qu'un nom à propos de quitter la France, ce sera celui d'Edouard Glissant, par exemple, que l'Université de Louisiane a accueilli dès le début des années 70, aujourd'hui célébré comme un immense écrivain et intellectuel, mais que l'Université française n'a jamais accueilli en son sein. Ce phénomène, il est massif. En fait, il semble simplement plus visible aujourd'hui.
Alors oui, et vous faites bien de citer Edouard Glissant parce que Maboula Soumaoro, qui a fait la conférence inaugurale de CJE, rappelait qu'elle l'a rencontré aux États-Unis par hasard dans un séminaire. C'est aussi l'expérience de Mamfatou Niang qui explique que en allant aux États-Unis, elle découvre des grands penseurs francophones, dont ici François Fanon, pardon, je cherchais le nom, et qui explique qu'en fait qu'elle le découvre en fait un peu par hasard dans d'autres espaces, et que ces chercheurs-là, ces penseurs-là, ces intellectuels sont sous-enseignés en France en fait dans l'ESR. Et ça dit aussi quelque chose en fait de la place de ces savoirs-là et de ces épistémologies également. C'est notamment sur un propos qu'a beaucoup défendu Noémie Michel, qui expliquait également que son séjour aux États-Unis, notamment à l'université de Berkeley, lui avait permis de réinvestiguer en fait ces penseurs-là et d'en faire une trame en fait dans ses enseignements quand elle était à l'université de Genève. Aujourd'hui, elle a décidé de quitter l'université. Alors la question c'était est-ce que c'est elle qui quitte l'université ou c'est l'université qui la quitte, mais d'avoir un engagement fort sur quel savoir on diffuse dans l'ESR et quels sont les savoirs qui sont sous-développés dans l'université française.
Alors, je citais le nom de Glissant, mais j'aurais pu citer celui, pratiquement même génération, un petit peu plus jeune, de Mantia Diawara, professeur de cinéma à NYU, d'Achille Mbembe, de beaucoup de gens qui ont fait, ou Mamadou Diouf, professeur à Columbia, qui ont fait leurs études en France, leurs thèses en France, et qui finalement se sont retrouvés, évidemment, à enseigner aux États-Unis, mais aussi beaucoup en Belgique, en Suisse, au Canada, qui sont des pays dans lesquels il semble que pour ces personnes racisées, ils soient plus facile d'obtenir des postes. C'est pas la seule question. Il y a la question aussi de la religion que vous avez posée durant ces journées d'études et qui vous concerne directement, Anne.
Oui, c'est ça. On a une table ronde sur être une chercheuse visiblement musulmane que j'ai animée, dans laquelle on a reçu 3 doctorantes et qui montraient une expérience très particulière, mais également très violente, de la position des chercheuses, donc pour le coup ici des femmes qui portent le foulard et qui vivent vraiment un stress minoritaire au quotidien, qui vivent également une forme de fatigue, d'assignation, et ça a des impacts même sur leur objet de recherche, parce que il y a toujours un soupçon sur la manière dont les chercheuses qu'elles sont vont influer sur leur objet de recherche ou sur leur objectivité. Par exemple, des questions qui sont par ailleurs, j'allais dire, plutôt éludées quand il s'agit en fait d'une positionnalité blanche. Hein. Donc la question c'était aussi de mettre au centre ces dynamiques-là. Et ce qui est ressorti de ces journées d'études, c'est que, par exemple, il y a eu une enquête de Fatia Ajbli sur la question des rapports sociaux de race dans un laboratoire particulier. Eh bien, c'est vraiment la manière dont ça résonne avec les expériences du public, des chercheurs et des chercheuses titulaires, non titulaires, doctorants qui étaient dans le public et qui font en fait sens et qui font commun et qui permettent de sortir en fait d'une perspective en fait subjective et individuelle et de se dire en fait c'est très commun et ça fait système.
On arrive bientôt au terme de l'émission. Une dernière question. Dans quelle mesure il y a une spécificité de l'enseignement supérieur et de la recherche? Est-ce qu'au fond, on n'a pas les mêmes problèmes dans l'école, dans l'enseignement dès la maternelle et jusqu'à l'enseignement secondaire?
Je suis tout à fait d'accord avec cette remarque-là, c'est-à-dire que ça ne commence pas à l'université. L'université, c'est le continuum en fait des rapports sociaux de race, sauf que l'université normalement se pense comme une forme de canopée, d'espace qui est préservé des rapports sociaux de genre ou des rapports sociaux de race, mais on voit bien en fait que le fait de ne pas en parler n'immunise pas en fait l'université de ces pratiques-là et qu'il faut les remettre au centre et les penser, les dire, et c'est l'objectif de ces JE, pour pouvoir les corriger en fait et mettre des choses en place pour pouvoir contrer ce racisme dans l'ESR.
JE, ça veut dire journée d'études. Vous en indiquiez une précédente. Est-ce qu'il y en aura de prochaines? Est-ce que vous envisagez de publier au fond ce qui s'est dit dans ces journées?
Alors oui, il y a une proposition qui va être faite à la revue Marronnage qui traite des questions raciales au crible des sciences sociales et une prochaine journée qui aura lieu à Strasbourg, à l'Université de Strasbourg où j'enseigne, en mai 2026 donc.
Merci beaucoup Anan. Merci Karimi. On trouve un lien sur la page de l'émission et également vers le programme de ces journées d'études qui ont déjà eu lieu. Merci à vous. C'était Sylvain Bourmeau pour la suite dans les idées avec Seam Boutata, la technique aujourd'hui Mineta Diawara, à la réalisation Jean-Christophe Francis.